Géopolitique. Catherine Monet.
Libye, Syrie, Yémen, ces révolutions qui n'en finissent pas, c'est le thème aujourd'hui de Géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Hamid Bozarslan, Patrick Hemzadeh et Mathieu Guider, trois grands spécialistes du monde arabe. Dans la première partie de cette émission, nous avons notamment évoqué la personnalité des dirigeants qui parviennent, malgré les révoltes en cours, à se maintenir au pouvoir et la nature particulière de ces régimes qui résistent. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur l'impact que peut ou pas avoir la communauté internationale sur le cours de ces révolutions. Et tout de suite, avant de vous retrouver, messieurs, je vous propose d'écouter une rare réaction du régime de Damas. Il s'agit du vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal al-Migdad, qui se trouvait cette semaine en Afrique du Sud, juste après l'annonce par Riyad du rappel de son ambassadeur de Damas.
I hope that among Arab countries, we don't enter into polemics.
J'espère qu'entre pays arabes, nous n'allons pas polémiquer pour dire qui entreprend des réformes et qui ne le fait pas. J'espère que nous n'allons pas nous critiquer les uns les autres. Nous espérons que l'ambassadeur saoudien retourne très vite à Damas. Mais ce que nous critiquons, c'est la position de certains pays arabes qui ne reconnaissent pas la réalité des choses, à savoir que ce sont des groupes armés qui tuent des innocents en Syrie. Et il y a des cargaisons d'armes, de l'argent et d'autres choses nécessaires pour mener des actions violentes qui viennent de différents pays voisins de la Syrie. Alors la Ligue arabe condamne les violences. Nous, nous condamnons les violences commises essentiellement par ces groupes armés, ces groupes extrémistes. Al-Qaïda est là. Ayman al-Zawahiri ne l'a pas nié. Dans une déclaration, il apporte son soutien à ces groupes extrémistes et à ceux qui mènent la soi-disant révolution syrienne. Mais je vous assure que le gouvernement défend les citoyens et les biens publics et privés.
Une réaction à ces propos à la fois déterminés mais aussi voilés de menaces, des menaces qui expliquent en partie le manque de réactivité internationale malgré la violente répression en Syrie.
On a une concentration de tout dans ce discours. D'abord, on a le brandissement de la menace terroriste et là, on découvre qu'Al-Qaïda est en Syrie. C'est une première.
C'est nouveau,
mais bon, on le savait déjà. Kadhafi nous a dit qu'Al-Qaïda était en Libye. Au Yémen, c'est assuré. Même le régime tunisien, Ben Ali, juste avant de partir, a dit qu'Al-Qaïda était dans le sud tunisien. Donc, Al-Qaïda devient véritablement une carte assez...
L'épouvantail
à faire. Il est vrai qu'il y a des groupes armés, mais comment n'y aurait pas-t-il de groupes armés lorsque vous avez l'armée en face qui attaque et qui essaie de tuer ? Donc, certaines personnes, bien évidemment, vont essayer de se défendre comme elles le peuvent. Donc, on est face à cette théorie du complot toujours qui est sortie par le régime syrien. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est le clin d'œil, pour ainsi dire, envoyé au régime saoudien, où la Syrie dit à l'Arabie saoudite, vous nous reprochez de ne pas faire des réformes, alors que vous-même, vous n'avez pas fait beaucoup de réformes dans votre pays. C'est en fait ce renvoi de balles où derrière, on voit véritablement de nouveau se constituer probablement un bloc sunnite contre cette monarchie alaouite, parce qu'il ne supporte pas que pendant le mois du Ramadan, ce régime continue à massacrer des peuples, des populations sunnites pour la plupart dans ce pays-là.
Alors, cette semaine, pour la première fois, la Ligue arabe s'est prononcée contre cette répression. L'Arabie saoudite a rappelé son ambassadeur. D'autres émirats du Golfe sont aussi intervenus. Est-ce que ce changement de ton du monde arabe peut influencer la Syrie ou pas ? Hamid Bozarslan ?
Je ne pense pas, en tout cas pas dans l'immédiat. N'oublions pas que le régime aujourd'hui s'expose nu uniquement par la coercition en interne, en suspendant totalement tout jeu de légitimité. Et je crois qu'il est capable de suspendre aussi tout jeu de légitimité et se présenter vraiment comme un régime effectivement répressif, prédateur sur sa population, sans tenir compte, disons, des pressions qui puissent s'exercer de la part des monarchies du Golfe, de la Turquie, de l'Europe ou des États-Unis. On l'a vu par le passé, le régime irakien in fine agissait de la même manière, le régime de Saddam Hussein. Il a parfaitement accepté de se mettre dans une économie de pénurie, acceptait aussi de faire face à l'embargo, puisque le régime lui-même est passé dans une logique de contrebande, de l'économie de contrebande. Et aujourd'hui, on a l'impression que le régime syrien, qui est de toute façon un régime à la fois entière, mais aussi qui se nourrit de la contrebande, d'une économie parallèle, peut parfaitement faire face à ces pressions. Donc, j'ai l'impression que tant qu'à l'intérieur du système, il n'y a pas une dissidence très forte de l'armée, où il n'y a pas une mobilisation très forte des populations d'Alep ou de Damas, le régime pourrait tenir et faire face aux pressions qui viennent de l'extérieur.
Alors, pour d'autres raisons, on a également constaté un certain attentisme de la communauté internationale vis-à-vis du Yémen, notamment de la part de Washington. Mathieu Guider.
Oui, alors, pour tous ces pays, en particulier pour le Yémen, on est dans une position un peu délicate. D'abord parce que ce que l'Occident a fait en Tunisie, en Égypte, n'est pas très convaincant pour l'instant. C'est-à-dire que le résultat de ces deux pays ne satisfont pas totalement ce à quoi on s'attend. Donc on est un peu réticent parce que ça ne donne pas de résultats immédiats. Mais d'un autre côté, on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas par quoi remplacer ces régimes. Par quoi remplacer ces régimes de façon efficace. C'est-à-dire que quelqu'un prenne du jour au lendemain la situation, qu'il y ait stabilité, qu'il y ait sécurité et qu'il n'y ait pas l'anarchie totale ni la guerre civile. Donc, face à deux situations, vous avez différentes stratégies diplomatiques. Soit vous avez la stratégie de protestation, on proteste et puis on laisse faire.
On prend éventuellement quelques sanctions économiques,
voilà,
symboliques.
Mais qui, comme l'a expliqué notre ami Bozarslan, ne servent à rien face à des régimes qui sont habitués à vivre quasiment dans l'autarcie depuis des décennies. Donc, c'est vraiment de la diplomatie de façade. Soit on intervient, comme on l'a fait en Libye, et là, on a de nouveau la critique, le risque d'enlisement, et tout cela fait qu'aujourd'hui, on est dans l'attentisme comme les populations locales.
Patrick Mzédé, justement, sur la Libye, donc là, voilà, la communauté internationale intervient, mais ça ne résout rien.
Bah écoutez, tout d'abord, moi je pense qu'en fait, une révolution telle qu'on l'entend, soit ça prend vite, et de l'intérieur, soit ça prend pas. Donc on voit bien d'ailleurs dans les différents cas, le cas libyen par exemple, on a eu une insurrection qui a duré 10 jours, et ensuite on est passé dans un schéma de guerre civile, avec des populations armées bien sûr des deux côtés, et deux entités politiques finalement, parce que c'est quand même important de le dire, qui luttent pour le pouvoir. On a d'un côté le CNT qui représente majoritairement les populations de l'Est libyen, avec une exception pour la ville de Misrata et un petit peu dans le Djebel Nefoussa aussi, à l'ouest. Donc on a ce schéma de guerre civile dans lequel, effectivement, on est intervenu militairement, avec des buts de guerre affichés au départ, qui étaient ceux de protection des populations civiles, qui étaient ceux, effectivement, qui auraient pu être ceux des 10 premiers jours. Ensuite, on est rentré avec des buts de guerre qui, finalement, se sont révélés rapidement être le changement du régime. Et là, on voit bien les limites d'une intervention militaire étrangère. Donc là, on s'est mis des limites dès le départ, c'est-à-dire que la communauté a dit qu'il n'enverrait pas de troupes au sol. Et donc, on est dans un schéma de bombardement. Et par des bombardements aériens, on n'a jamais obtenu le départ d'un dirigeant. Au contraire, je dirais même qu'il y a un effet contre-productif, puisque les populations de l'Ouest, maintenant, se voient quelque part ressoudées autour de leur dirigeant. Ça nourrit la rhétorique de Kadhafi. Et surtout, bon, ces problèmes de sanctions, moi je l'ai vécu en Irak, parce que j'ai aussi travaillé plusieurs années en Irak, bien malheureusement, c'est les populations qui en souffrent, les populations les plus désavantagées, et ce ne sont pas les dirigeants. Au contraire, ça renforce finalement les réseaux de contrebande qui sont aux mains des proches du régime, des nantis, des services de renseignement, et la population, effectivement, paye le prix. Donc on se retrouve avec des effets contre-productifs par rapport à ce qu'on avait voulu atteindre au départ, à savoir l'objectif de protection des populations civiles se transforme finalement en quelque chose où c'est les populations civiles qui vont souffrir.
D'accord, merci Patrick Mzédé. Amit Bozarslan, vous souhaitez réagir ?
Oui, je voulais juste ajouter un point. Très rapidement, je pense qu'effectivement les politiques que nous avons menées à travers, le système monde dans sa totalité, nous avons énormément renforcé ces régimes au cours des 10 ou des 15 dernières années. N'oublions pas que le régime de Kadhafi a été réhabilité il y a une petite dizaine d'années, malgré les charges qui pesaient contre lui. Pourquoi ? Parce qu'il a été chargé d'effectuer le rôle du gendarme contre les populations déplacées, mais aussi contre, soi-disant, les militants d'Al-Qaïda. On sait combien on a réhabilité le régime de Bachar al-Assad à partir de 2005, 2006, 2007. Et donc, je pense que cette réhabilitation sur le plan international, ça leur a permis aussi de se renforcer sur le plan intérieur. Et aujourd'hui, je pense que l'une des ressources qu'ils mobilisent, c'est précisément cette position géostratégique qu'ils ont pu négocier auprès du système international.
Géopolitique, le débat.
Suite de Géopolitique, je suis toujours en compagnie d'Amit Bozarslan, Patrick Hemzadeh, Mathieu Guider. Messieurs, les trois pays sur lesquels nous nous penchons depuis le début de cette émission, la Syrie, la Libye, le Yémen, n'ont-ils pas finalement aussi en commun des oppositions assez, voire totalement disparates et désorganisées? On peut peut-être commencer avec vous, Patrick Hemzadeh, et revenir en Libye, où l'assassinat fin juillet du chef d'état-major des forces insurgées a révélé finalement de profondes divergences au sein du CNT, l'instance dirigeante de la rébellion libyenne.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'en Libye, il n'y a pas de tradition de culture politique vraiment établie. Depuis 42 ans, le régime Kadhafi a fait table rase de toute forme de vie politique. Alors, c'est un pays jeune, la création de la Libye, c'est 1951. Donc là aussi, c'est finalement la tradition d'État central est très faible par rapport à d'autres pays comme la Syrie, la Tunisie ou l'Égypte. Et donc, effectivement, on voit bien que ce qui joue en Libye, c'est le niveau local. C'est-à-dire que finalement, les gens vont se reconnaître et combattre pour leur ville, leur village ou leur région. C'est ce qui se passe finalement même en Cyrénaïque. Au Cyrénaïque, on a eu, entre guillemets, au bout de 10 jours d'insurrection, la création de ce Conseil national de transition. Ça s'est fait finalement par consensus, un petit peu au niveau des différentes régions. On a nommé des gens, on les a présentés.
Mais c'est quand même une institution qui n'est pas du tout homogène.
Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'anciens apparatchiks du régime Kadhafi. Et puis, il y a des gens de différentes tendances, de différentes régions. Et on voit bien que là, actuellement, il y a des dissensions. Alors, l'assassinat du général Younes, ce n'est qu'un révélateur, quelque part, de ces dissensions. Tout d'abord, entre régions, entre grandes tribus, et puis entre sensibilités politiques. Il y a effectivement des gens qui sont sûrement plus proches des sensibilités des frères musulmans, et d'autres qui sont peut-être plus, entre guillemets, laïcs. Alors, bien que j'aime pas utiliser ce terme pour la Libye, parce que ça veut pas dire grand-chose. Voilà, donc je pense qu'effectivement, toutes ces dissensions, mais c'est surtout, en Cyrénaïque, vous avez plusieurs grandes villes, donc on a Benghazi, à l'intérieur de Benghazi, il y a des gens qui se reconnaissent plutôt bédouins, d'autres qui sont plutôt des notables commerçants, et puis les autres villes de Cyrénaïque, vous avez Tobrouk, Beida, Derna, qui chacune ont des groupes armés. Ont des groupes armés, donc des miliciens armés, qui ont acquis une légitimité militaire sur le terrain, et qui, après ces 4 mois de guerre civile, maintenant revendiquent un poids politique proportionnel à leur poids ou à leur légitimité militaire. Donc effectivement, on voit bien que le CNT du mois de février n'est plus du tout...
N'est plus celui de juin.
Je rappelle aussi que
le président du CNT vient de limoger ses ministres sans expliquer son geste.
On espère que par les négociations, ils vont arriver à rebâtir une coalition. Mais de toute façon, ce sera extrêmement instable. Et de toute façon, effectivement, si la situation devait perdurer comme ça, il y aura des risques d'autonomisation et de combat. Parce que maintenant, effectivement, tous ces miliciens sont armés. Et il n'y a pas un chef militaire qui peut avoir une autorité sur ces différentes milices.
Un mot sur l'opposition yéménite qui n'a toujours pas réussi non plus vraiment à s'organiser et surtout à organiser la transition politique malgré l'éloignement du président Salé qui est hospitalisé en Arabie Saoudite depuis l'attaque dont il a été la cible.
Oui. Mathieu Guilherme, je crois qu'il faut expliquer cette histoire d'opposition. On a l'impression que c'est la même chose qu'en Occident. Pas du tout. Il faut d'abord savoir quelque chose de très important. Ces régimes ont fait le vide politique autour d'eux. Ces régimes, pendant des années, n'ont rien laissé. C'est vraiment de la politique de la terre brûlée, que ce soit les islamistes, ils ont mis tous en prison ou alors réprimés. Les démocrates ont été soit mis dans un zoo, soit rattachés de force, soit instrumentalisés, satellisés. Et donc, il n'y a pas vraiment d'opposition lorsqu'on parle d'opposition. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que lorsqu'on regarde ces pays, on se dit, mais où est l'opposition? En réalité, elle n'existe pas dans les faits. Il y a quelques élites intellectuelles avec une certaine analyse politique, une certaine conscience politique des choses, mais en aucun cas un ancrage populaire, des réseaux de soutien, des réseaux d'appartenance qui pourraient faire ce que l'on appelle une opposition politique. Donc tout cela s'explique. Dans le cas du Yémen, cela est compliqué par la structure tribale du pays où vous avez quasiment le chef d'une confédération tribale, la confédération de Hashed, le cheikh Al-Ahmar, Sadr Al-Ahmar, qui est capable de mobiliser uniquement par les forces tribales 60 000 hommes en armes. Il a plus d'hommes que l'armée nationale. Donc à partir de là, lorsqu'on parle d'opposition, c'est une opposition d'individus dans le cas présent, c'est-à-dire que les chefs tribaux au Yémen, à un moment donné, qui étaient partie intégrante du système Salé, ont dit à Salé, c'est pas possible, il faut que tu partes. Salé, par fierté tribale, personnelle, de son clan, de lui, de sa famille, parce que tous les postes sont pris par sa famille, a dit non. Donc on est aujourd'hui face à une opposition davantage de personnes derrière lesquelles il y a un ancrage tribal, clanique, populaire, que dans le cadre d'une opposition politique à proprement parler. Et cela se voit d'ailleurs dans les programmes. Bah, si vous prenez les programmes des partis au Yémen, quasiment tous, vous allez aboutir à peu près à un socle commun sur lequel tout le monde s'entend. En Libye, c'est également la même chose. Je connais aucun, et ça a été rappelé, quelqu'un qui se proclame comme laïque en Libye, je vois pas. Hein. Sincèrement, aujourd'hui, ça ne se trouve pas et il n'a aucun ancrage populaire. Donc cette notion d'opposition politique, il faut la prendre vraiment avec beaucoup de précautions.
Un mot sur la Syrie, Amit Bozarsan.
Oui, je pense que la situation est un peu différente. Non pas parce que le système politique n'a pas été cassé. N'oublions pas que depuis 1963, il y a une chasse aux partis politiques en Syrie. Il y a eu des partis qui ont été cooptés, mais d'autres qui ont été, y compris de gauche, durement réprimés. Et aujourd'hui, on se trouve en face d'un vide politique. Et ce vide politique se traduit aussi d'ailleurs dans la nature, à travers les manifestations. On a l'impression que les manifestations ne sont pas politiquement organisées. Ce sont des manifestations spontanées, ce sont des quartiers qui s'organisent, ce sont des villes qui s'organisent. Et je crois que d'ailleurs,
grâce à Internet,
mais aussi je pense que grâce à énormément de réseaux gris qui existent au sein de ces villes-là, et c'est très probablement leur force. Et en même temps, on sait aussi que cette force peut s'avérer une faiblesse. On le voit aujourd'hui a posteriori en Égypte, où les frères musulmans finalement sont la seule force qui politiquement est structurée. Ils sont venus sur la scène contestataire beaucoup plus tardivement, mais aujourd'hui c'est eux qui tentent de le dominer et ils essaient de négocier avec les militaires. Cela étant dit, en Syrie, on dispose quand même de trois réseaux. Un premier réseau, effectivement, des frères musulmans qui a été tenté par la stratégie armée dans les années 80.
Est-ce qu'on a une notion vraiment de ce qu'ils représentent? Parce que à chaque fois, beaucoup. Le pouvoir brandit la menace islamique en même temps.
Oui, mais les frères musulmans ne peuvent pas du tout être assimilés, disons, à Al-Qaïda. Ils représentent beaucoup parce que dans les années 90 et 2000, le pouvoir les a réhabilités au niveau social, puisque le pouvoir ne parvenait plus du tout à assurer la redistribution ad minima, et donc du coup la soupe populaire, c'était les frères musulmans qui le faisaient. Et aujourd'hui, ils sont présents, mais ils refusent une stratégie de la révolution violente. En deuxième lieu, il y a une opposition qu'on peut appeler de gauche, libérale de gauche, qui n'est pas très représentative, mais qui joue quand même un rôle sur la scène intellectuelle. Elle tente de s'organiser, dans quelle mesure elle y parviendra, on ne sait pas. C'est une opposition multiconfessionnelle, comme l'indique par exemple le fait que Michel Kino soit l'un de leurs porte-parole. Et enfin, il y a une troisième opposition qui est l'opposition kurde, qui est sans doute beaucoup plus structurée socialement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu principal ne se déroule pas dans les régions kurdes, mais beaucoup plus dans les villes arabes.
Messieurs, merci. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Géopolitique était consacrée aujourd'hui aux révolutions qui n'en finissent pas. Alors merci à nos trois invités. D'abord à Mathieu Guider, chercheur. Votre dernier ouvrage s'intitule « Le choc des révolutions arabes » aux éditions Autrement. Merci également à Amit Bozarsan, historien. Je rappelle également le nom de votre dernier ouvrage « Passion révolutionnaire » publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Merci enfin à Patrick Emzadeh qui vient de publier aux éditions Jean-Claude Lattès « Au cœur de la Libye de Kadhafi ». Boris Vichit a assuré la technique et la réalisation de ce numéro de Géopolitique. Géopolitique, eh bien le prochain rendez-vous c'est dès demain avec Hassan Diop. Au revoir et à très bientôt.